Embarquement immédiat pour G comme Odéon. L'émission des Good Gone qui cause culture sur lyondemain.fr. Bonjour à toutes et tous, heureuse de vous retrouver pour la nouvelle saison de notre émission. Au programme de cette rentrée, de l'art et des idées de sortie, mais aussi de la musique et de la poésie. Au sommaire, la photographe plasticienne Raphaël Peria, qui est à l'honneur de la Fondation Bulukian. Guillaume nous fait découvrir les compositions et la voix d'Anna Jo. Gaëlle nous parle de l'exposition Dérive chez Manifesta et Thomas va lire, pour notre plus grand plaisir, un extrait d'un texte d'Alain Rivière, Les chiens nus. Nous terminons par nos Gédéons, quelques recommandations choisies avec soin, évidemment. Bonjour Raphaël Peria, très heureuse de vous rencontrer. Alors je vous présente rapidement, vous exposez donc à la Fondation Bulukian, place Bellecour jusqu'au 4 janvier. L'exposition s'intitule « Dérive de nos rêves informulés ». On va commencer par là. J'aimerais pour débuter que vous commentiez ce titre poétique et énigmatique pour nous, Raphaël.
Bonjour, merci de m'inviter à votre micro. Ce titre, en fait, il est, comme souvent dans mes titres, issu d'un livre. Il est issu d'un livre de Christian Bobin qui s'appelle « Le murmure ». On retrouve la couverture de ce livre dans l'exposition. C'est tout simplement, en fait, quand j'ai lu cette phrase dans le livre, alors qui n'est pas exactement la même phrase, c'est-à-dire que le mot dérive a été ajouté à la phrase de Christian Bobin. On parle juste de rêve informulé. À ce moment-là, dans la discussion avec la commissaire d'exposition, Fanny Robin, je lui ai expliqué que j'avais cette idée de mettre une barque dans l'exposition et qu'à l'intérieur de la barque, c'était tous les projets que je n'avais pas terminés, que je n'avais pas faits et qui, du coup, quelque part, étaient un peu informulés. Et comme nous parlions de dérive, nous avons ajouté ce terme dérive au titre de Christian Bobin.
Ça marche très bien, je vais vous dire pourquoi, parce que on est quand même dans un univers flottant. J'ai pensé aux ukiyo-e japonais, aux estampes japonaises, et à l'univers, bien sûr, des impressionnistes tels que Monet, avec ses fameux nymphéas. J'imagine que la citation est ici propice, finalement, à une interprétation que j'aurais pu avoir.
Alors, je dirais même les citations, parce que les ukiyo-e, je suis très très inspirée par la culture japonaise, l'estampe japonaise. À un moment, je m'étais dit, ah tiens, cette exposition, elle pourrait s'appeler Les Jardins Flottants. Mm-hmm. Sauf qu'en fait, la Biennale, il y a deux ans, s'appelait Les Mondes Flottants.
C'est vrai.
Donc je me suis dit, bon, quand même, on va pas prendre un petit copier-coller. Mais voilà, j'ai toujours cette idée, effectivement, de barque, d'eau, pour une raison très simple, c'est que j'habite sur l'eau, j'habite sur une péniche depuis que j'ai 3 ans. Donc je me réveille tous les matins sur l'eau et je m'endors tous les soirs sur l'eau. Donc c'est quelque chose qui fait partie de mon quotidien. La référence aux nymphéas de Monet et aux impressionnistes plus généralement, on la retrouve effectivement beaucoup dans mon travail en ce moment, puisque avec Fanny Robin également, mais avec aussi Aurélie Nourry, la directrice du musée Michel Siri, j'ai réalisé une exposition là-bas au printemps dernier, dans le cadre du festival Normandie Impressionniste. C'était un peu le premier volet de l'exposition, et forcément tout un travail un peu autour de l'élément eau, du côté aquatique.
On retrouve d'ailleurs un nénuphar, un nymphéa, avec une citation qui, justement, en tout cas, moi, m'a évoqué les jardins flottants, bien sûr, de Giverny.
Effectivement, on retrouve le nymphéa dans l'exposition. Alors, on le retrouve sous deux formes. On retrouve le véritable nymphéa que j'ai mis en herbier, qui est en train un peu de se décomposer dans l'exposition, mais où surtout toutes les couleurs du nymphéa se sont décomposées sur les pages. Cette œuvre qui s'appelle Le nymphéa s'évapore, en petit clin d'œil effectivement à Monet, mais également à la littérature asiatique, puisque c'est un clin d'œil à Haruki Murakami, qui a écrit un livre qui s'appelle L'éléphant s'évapore, qui est un de mes livres préférés, que je vous invite à lire. C'est une histoire où en fait tout est ancré dans le réel, et puis d'un seul coup on passe dans un monde imaginaire où on n'a pas compris comment on était passé de l'un à l'autre. Voilà, c'est un peu tout l'idée de mon travail.
C'est toujours Murakami, c'est toujours très étrange.
Ouais. C'est ça, c'est toujours très étrange.
Votre travail est celui d'une paysagiste passionnée par les arbres. Depuis quand cultivez-vous une dévotion à cet élément du paysage ?
Toujours aimé les arbres, hein, ça c'est pas une question. J'ai grandi à la campagne, j'ai grandi au milieu de la nature. Dévotion, je sais pas si on peut dire ce mot-là, mais en tout cas.
Vous dites l'arbre, les arbres sont les gardiens de nos secrets.
La figure de l'arbre, c'est un arbre n'importe où dans le paysage. Il a vu toute l'évolution du paysage autour, toute l'évolution vernaculaire. En fait, c'est l'idée que il dira jamais rien. Et ça fait 10 ans que les arbres ponctuent mon travail. Je prends énormément de photos d'arbres comme on prendrait des photos en pied de personnes. Alors, il n'y en a pas forcément à la Fondation Bulukian.
Des portraits d'arbres.
Peu, mais j'aime bien l'idée des portraits d'arbres. Et c'est souvent des arbres qui, pour moi, sont gardiens de ma mémoire parce qu'ils ont vu des événements importants se passer.
On pourrait rapprocher, on l'a dit, vos travaux des impressionnistes, on l'a déjà dit. C'est vrai qu'il y a une poésie qui se détache de tout ça, et le lien avec la littérature aussi est extrêmement important. Vous citiez Christian Bobin, et on voit aussi cette de collecte de matériaux qui est vraiment très, très spécifique. Et...
La littérature, enfin les livres en tout cas, sont très importants pour moi, parce que je suis une boulimique des livres. Je dis toujours, c'est que quand je vais pas bien, je vais acheter des livres, et quand je vais bien, je vais acheter des livres. J'entends dans les librairies, et j'achète tout le temps des livres. Et je les lis, contrairement à des gens qui les entassent,
oui,
je
ça.
Les lis aussi. Et c'est vrai que là, il y a une œuvre dans l'exposition,
oui.
Donc qui s'appelle « Les souvenirs, mes fleurs ». Donc c'est un jeu de mots sur les souvenirs qui m'effleurent. Mais là, on parle vraiment de fleurs. Et c'est toute une œuvre, une pièce, je ne sais pas comment l'appeler, qui est en tout cas une collection d'herbiers. Donc c'est,
collée sur des pages de livres.
Voilà, des fleurs collées sur des pages de livres. Et si on s'amuse à lire toutes les pages de livres, c'est tout le champ lexical de l'exposition pendant 2 ans d'évolution de ce travail.
Et on ne va pas déflorer l'ensemble du process, mais quand même, vous avez une technique bien particulière. Et d'ailleurs, vous dites, la photo, je n'aime pas ça, je trouve ça trop lisse. Alors justement, pourquoi vous trouvez ça trop lisse et qu'est-ce que vous leur faites à ces photos?
Alors effectivement, j'ai un problème avec la photo et je me dis pas photographe et mon appareil photo c'est mon téléphone hein, la plupart du temps.
Ouais. Oui, donc l'image finalement n'a pas une importance, enfin la définition de l'image n'est pas extrêmement importante.
C'est pas la qualité de l'image qui m'importe, c'est le sujet et en tout cas c'est ce que je vais faire post-photographie, c'est-à-dire que je vais prendre la photographie, souvent je vais pas la retravailler tout de suite mais je vais la retravailler plus tard en atelier. Quand je dis plus tard c'est quelques mois après l'avoir prise, voire des fois des années après l'avoir prise. En fait, sur la surface du papier photographique, je viens travailler avec des petits outils de graveur et des outils de chirurgien, et je viens sculpter le papier photographique pour le mettre en relief, le mettre en suspens. Et quand je sculpte le papier, en fait, je n'ajoute rien, mais je fais apparaître le blanc de l'arrière du papier. Et du coup, on a cet ajout de lumière.
Oui, il y a de la matière aussi, puisqu'il y a les petits filaments en fait, du papier qui restent. Hein.
Et effectivement, c'est l'idée que, en fait, quand vous avez, on est parti sur l'arbre tout à l'heure, quand vous avez un arbre dans la nature, quand le vent passe, les feuilles bougent, les brins d'herbe bougent. Mm-hmm. Quand vous avez une photo, ça fige tout.
C'est vrai.
Quel dommage. Je suis une contemplative des arbres, mais du mouvement du vent dans les feuilles d'arbre.
Mm-hmm.
Donc je m'amuse à décoller chaque feuille, une par une, et chaque brin d'herbe, un par un, pendant des heures et des jours et des mois.
Oui, parce que ça doit être extrêmement méditatif. C'est-à-dire que là, il faut être patient.
Alors, je ne sais pas si je suis quelqu'un de patiente. En général, ça qui est drôle. Mais oui, en tout cas, il faut de la patience et de la minutie pour ne pas transpercer le papier, pour continuer le dessin. Et en même temps, moi, j'écoute beaucoup de podcasts, j'écoute beaucoup de livres audio pendant que je travaille, donc ça me dérange pas
de
passer des heures à le faire et j'adore dessiner. Donc voilà,
parce que les pièces sont parfois très grandes, hein, il faut le dire. On va inviter nos auditeurs à aller découvrir cette très belle exposition. Moi, j'ai vraiment, vraiment adoré. Dérive de nos rêves informulés. Les pièces sont grandes, parfois toute petite, voilà, on n'en dit pas plus. Et puis, vous ne faites pas que de la photo gravée, on va dire ça comme ça, ou grattée, on va dire ça comme ça. Vous faites aussi, vous travaillez la terre.
Oui, ça c'est assez nouveau dans mon travail, mais toujours dans cette idée en fait, d'emmener le dessin vers le volume. Je me suis mis à travailler sur la céramique, donc là c'est un travail sur des objets qu'on pourrait apparenter à des vases, même si on ne pourra pas les utiliser comme vases, parce qu'ils sont beaucoup trop fragiles, ça reste des sculptures. Mais je viens en fait dessiner sur du grès, donc c'est des vases qui sont... Je travaille avec un artisan potier, il me tourne les vases à la forme que je souhaite, et ensuite je viens dessiner sur le vase accru, je viens regratter la terre pour faire réapparaître le blanc en dessous de ce que j'ai dessiné en noir et blanc là, dans cette exposition-là. Ensuite on passe en cuisson, et du coup voilà, l'idée c'est que le dessin vienne encore une fois en relief vers l'extérieur, et qu'on ait toujours cette sensation que les petits brins d'herbe et les petites feuilles... arrive vers nous.
Merci beaucoup Raphaël Peria pour ce beau travail et cette poésie. Bref, on passe un moment délicieux en dérivant sur nos rêves informulés. Merci beaucoup Raphaël Peria, c'était un plaisir.
Merci à vous.
Merci. Nous poursuivons avec toi, Guillaume. Tu es venu accompagné d'Anna Jo, tous les quatre, puisque vous êtes trois. Anna Jo n'est pas venue seule. Bonjour à tous.
Et oui, c'est le doublé du jour, parce qu'en fait, Anna Jo, tu chantes aussi dans un autre groupe qui s'appelle...
Second Major.
Et voilà. Et en fait, il y a une release party, donc, au Troxon, le mardi 9 octobre, où à la fois ton EP, ton projet qui sort le 4, je crois, qui s'intitule Soft of Soul, eh bien, sortira ce jour-là, et vous ferez avec le groupe la deuxième partie. Enfin, je sais pas, il n'y a pas de première partie, deuxième partie.
C'est ça, on voit ça un peu comme un coplateau. Et donc, je vais jouer seul avec mon projet Anadjo, puis on jouera ensemble en groupe avec Second Major.
Je t'avais découvert lors du tremplin Kiwi, place Guichard, le 21 juin. À l'époque, il n'y avait pas encore d'EP. Est-ce que tu peux nous parler de cet EP? Parce que finalement, il s'appelle Soft, Soft Soul. C'est ni soft, ni soul.
Alors ce titre, c'est le titre déjà d'une chanson qui est sur cette EP. C'est une des dernières chansons que j'ai composée et écrite et qui finalement parlait un peu d'une période de transition dans ma vie. Et avec cette EP, je vois un peu une page qui se tourne. En fait, sur cette EP, il y a 6 compositions qui ont été écrites entre 2021 et 2024, donc une période assez large. Et donc j'ai voulu faire un peu une synthèse de toutes ces périodes de composition qui marque un peu la genèse du projet Anadjo. Et voilà, et Soft Soft Soul, pour moi, fermait ce chapitre-là. Et elle parle beaucoup de sensibilité, de questionnement sur où est-ce qu'on va dans la vie, pourquoi. Et pour moi, ça faisait sens que ce soit le titre de cette EP.
Ton projet, t'es seul sur scène à la guitare, mais il y a quand même des boucles, il y a un peu d'électro. Tu peux nous expliquer un petit peu comment tu as conçu tout ça?
Tout simplement, je composais donc chez moi, sur un home studio. Et les premières scènes que j'ai faites, en fait, il a fallu que je réfléchisse à comment j'allais faire sortir ça de ma chambre, sachant que j'avais aucun musicien pour m'accompagner. Et donc on m'a simplement dit, mais prends tes bandes, joue de la guitare dessus et chante. Je dis, bah, eh bien, pourquoi pas? Donc j'ai essayé comme ça, en me disant que ça allait évoluer par la suite, que j'allais jouer avec d'autres personnes. Puis finalement, pour l'instant, c'est une formule qui fonctionne toujours pour moi. Comme ça, ça donne un rendu assez intimiste.
Intimisme, mais je crois savoir que tu t'es un peu perfectionné en MAO, enfin, tu as essayé de faire des recherches là-dedans pour que les sonorités soient, enfin, habillent le jeu de guitare aussi, parce que le jeu de guitare, il est assez puissant quand même. C'est pas folk, hein, on est bien d'accord, c'est vraiment, c'est très électrique finalement.
Oui, c'est sûr, ouais, il y a un côté très, très rock, en tout cas c'est ce que je veux à ce projet. C'est vrai qu'en fait j'ai beaucoup expérimenté quand j'ai commencé à enregistrer, et pour la petite anecdote, c'était pendant le premier confinement en fait, on avait tous beaucoup de temps, et c'est là que j'ai fait mes premières expérimentations sur le logiciel FL Studio, et que j'ai fait des recherches avec des synthétiseurs, des samples, tout ça, et que j'ai vraiment commencé à enregistrer des vrais morceaux, mais toujours accompagné de guitare.
Peut-être écouter un titre, mais justement, moi, enfin, c'est le, on va dire, single. Il y en a deux qui sont sur les réseaux, qui s'intitulent How Does It Feel? Parce que celui-là, il y a de la guitare, mais c'est finalement sombre, mais en même temps très dansant. Enfin, il y a un côté presque dance floor, quoi, un petit peu. J'exagère un peu, mais voilà, ça bouge quand même. On va écouter ce titre. On vient d'écouter How Does It Feel, extrait de ce premier EP Soft of Soul d'Anadjo qui sort donc le 4 octobre. C'est la release party qui est le 9 octobre au Troxon. Tu peux nous parler un peu de ce morceau, parce que franchement, il fait du bien en fait ce morceau.
Eh bien, en tout cas, ça fait plaisir de l'entendre. Ouais. Et ce morceau, c'est effectivement un de mes plus... Enfin, qui a une base plus électro que les autres. Je me suis vraiment amusée à le faire. Tout est sorti de moi très naturellement. Les paroles sont un peu anecdotiques, je dirais, sur ce morceau, parce que je cherchais juste à accompagner avec une mélodie à la voix.
Bon, tu chantes aussi dans ce groupe qui s'appelle Second Major, qui n'a rien sorti. On ne peut pas entendre de morceaux sur Internet. Hein. Vous pouvez chercher. On trouve plein de trucs, Second Major, mais c'est jamais vous. Alors, tu peux peut-être passer la parole à tes camarades. Bah, qu'est-ce qui va sortir bientôt? Vous avez enregistré cet été des titres.
Oui, c'est vrai que Second Major n'est pas forcément lié au projet Anna Joe en premier lieu. Second Major, c'est surtout des compositions qui ont commencé à voir le jour à l'été 2022. Et donc, j'ai voulu écrire un peu plus pour moi, avec cette envie de continuer à faire de la musique et de la musique en groupe, dans une esthétique toujours rock, qui va pouvoir s'affiner, mais qui reste aussi élargie, quoi. Il s'avère que c'est en février 2024 qu'on s'est rencontrés avec Anna. Donc nous, avec Thibaut à la batterie, et moi c'est Anthony, je suis au chant et à la basse. On avait commencé à travailler quelques compositions, mais on n'avait jamais trouvé la formule pour que ça puisse exister en live. Et donc on s'est rencontrés un petit peu par un heureux hasard avec Anna. Et c'est très rapidement qu'on a commencé à faire de la musique ensemble, à expérimenter sur les compositions qui préexistaient. Donc il s'avère que... On a pris notre temps pour construire un set, pour construire un univers, pour mettre en place ce qu'on avait envie de mettre en place. Et c'est vrai que cet été, à la fin du mois de juillet, on s'est rendu à Paper Street Studio. C'est un super studio avec des super personnes. En compagnie d'un musicien artiste lyonnais qui s'appelle Thibaut Labbé, qui a un super projet qui s'appelle Trumpets of Consciousness et qui est actif sur plein d'autres choses. Et on a enregistré 3 titres. Qui vont donc sortir sur la forme d'un EP courant de l'année 2025, avant l'été. Et on va sortir un premier single qui sera un titre qui s'appelle Bekchinski à la fin de l'année 2024.
Bah parlons de ce titre-là, parce que d'un nom propre, d'un artiste, voilà. Alors comme c'est la Biennale d'Art Contemporain qui commence bientôt, tu peux peut-être nous dire comment tu as découvert cet artiste polonais ?
Bekchinski, c'est un peintre polonais qualifié surréaliste. Je l'ai découvert pendant mes vacances à l'été dernier, donc l'été 2023, quand j'étais en Pologne. J'ai pu me rendre dans une partie de la ville de Cracovie qui s'appelle Nowa Huta, où il y a la galerie qui porte le même nom, donc Bekchinski. Et je ne connaissais pas son univers et je suis rentré dans un endroit obscur qui devait faire aller 120 mètres carrés avec une trentaine de tableaux de ce peintre. Il y avait une ambiance sonore, il y avait plus qu'une ambiance, un univers visuel aussi très fort. Tout de suite, ça m'a énormément parlé. Dans ses peintures, il y en a beaucoup qui disent qu'il peint ses cauchemars. Il y a beaucoup de jeux de textures et dans un aspect assez cauchemardesque et horrible, parce que lui, il a vécu au XXe siècle, il a vécu la Deuxième Guerre mondiale en partie et plein d'autres événements qui sont passés en Pologne donc. Et il y a un côté très apaisé au final dans ses peintures et je trouve que ça fait dégager une sorte de tension que dans la genèse de Second Major, on va essayer de retrouver régulièrement dans nos titres. Et donc voilà, toute cette idée de tension, d'apaisement face à un chaos, nous c'est ce qu'on va essayer de faire. Et dans ce titre Bekchinski, vous pourrez retrouver une ligne qui se répète souvent avec un système de boucles et puis des phrases au niveau des paroles qui vont être répétées. Et pour essayer de créer une sorte d'impact. Et on va toujours en tout cas essayer de jouer avec les musiques de Second Major sur un aspect tension versus libération. Et donc voilà, c'est ce qu'on essaie de faire avec ce titre. On est content qu'il sorte en premier.
Eh bien, on a hâte de vous écouter en live. Donc, on rappelle la date, hein, au Troxon. Donc, c'est le mardi 9 octobre pour la sortie. Mercredi 9 octobre au Troxon. C'est gratuit en plus. Donc, voilà, deux plateaux, enfin un co-plateau, enfin deux groupes. Toi, Anna Joe, avec cet EP. Et puis, donc, des titres qu'on entendra plus tard dans cet EP courant 2025. On vous remercie tous les deux. Enfin, tous les trois, pardon. Merci beaucoup.
Et bon, on se voit au Troxon.
Merci.
Bonjour Gaël, cette semaine nous avons déjà parlé des rives avec Raphaël Peria en début d'émission. Il se trouve que c'est aussi le titre de l'exposition chez Manifesta. Nous t'écoutons.
Manifesta fête ses 5 ans avec l'exposition Dérive, montée en collaboration avec la galerie parisienne Binôme. Dérive pose une question. Quelles sont les nouvelles formes de photographie ? 12 artistes nous immergent dans une vaste incursion où l'expérimentation prime. Chez Lee Schulman, fondateur de The Anonymous Project, l'expérimentation prend la forme d'une collection de diapositives couleurs prises par des amateurs depuis les années 50. Il en possède aujourd'hui plus d'un million. Manifesta présente 100 diapositives dont les couleurs Kodachrome font écho aux vitraux, titre de la série. Dans l'exposition Dérive, Laurence Agerter fait dialoguer la photo avec des tapisseries tissées en jacquard, relevées de laine mohair et de fils fluorescents. La texture offre de multiples bas-reliefs qui parfois miroitent. Plaisir tactile à ne toucher que des yeux. Art textile toujours avec les portraits en fil de soie de Laurent Lafolie. Effet bluffant qu'offre la superposition de visages dessinés sur fil de soie naturel, fil imprimé avec de l'encre pigmentaire charbon. Du chevauchement des fils ancrés émane la magie de la reconstitution du portrait. N'hésitez pas à vous déplacer, l'effet fascine comme une anamorphose. Mustapha Azeroual travaille également l'impalpable avec des tirages de plusieurs images sur support lenticulaire. L'osmose des teintes rose et vert de l'œuvre intitulée Radiance Goa hypnotise et ensorcelle. Tout aussi fascinant, les tirages argentiques sur film contrecollés sur miroir de Marc Latulière. Dans l'œuvre intitulée La Friche, les détails d'un paysage industriel apparaissent au fur et à mesure de votre déambulation, comme un hommage à l'histoire de ces sites désaffectés. La désaffection jusqu'à la destruction constitue le propos de Lisa Sartorio. Sa série « Ici ou ailleurs » offre des images kaléidoscopiques de dégradation urbaine suite à la guerre du Liban. Images tout autant troublantes, celle de la série « Cité engloutie et le temps voilé » de Guénaël de Carbonnière. L'urbain devient fantomatique, spectral, traité dans un jeu voilé de positif et de négatif. Autre ici, celui que cette même artiste présente dans un objet inédit, un livre né de la série Empreinte mobile. Elle l'a réalisé sur 10 ans, de 2014 à 2024. L'ouvrage recense une décennie de manifestations, saisies dans le flou éloquent de 400 photogrammes. Enfin, trois grands formats de Philippe Durand présentent de monumentaux genêts. Sentiment de faire face à d'immenses herbiers qui frôlent la fable et le réalisme magique grâce à la technique du cyanotype. L'exposition Dérive élargit considérablement le champ photographique. Programmée chez Manifesta jusqu'au 26 octobre 2024, elle est, notez-le, aussi ouverte ce samedi et ce dimanche. Plus d'informations sur manifesta-lyon.fr.
Je crois que tu voulais nous parler aussi de Comet.
Le deuxième espace en résonance de cette 17e Biennale de Lyon est Comet, un lieu d'art contemporain discret dans ses mètres carrés, mais amplement dilaté par l'effervescence de sa directrice artistique Émilie Dornano. Le duo d'artistes suisses Nostal Chic expose Swissflex, une exploration du concept du Higeling, terme danois qui fait référence au confort et au bien-être. La vidéo Cozy Cabin Ambiance propose un intérieur avec une cheminée qui crépite. Référence aux vidéos que YouTube diffuse en boucle pour la relaxation et qui font sensation. Mais soudainement, avec le duo nostalgique, s'invite à l'écran une femme créée par intelligence artificielle et elle vous interpelle. La vidéo soulève la frontière ténue entre réalité et simulation. Troublant. Comme tous les chalets miniatures disposés ça et là au sol de l'espace Comet. Les petites fenêtres des chalets sont éclairées par, on suppose, des écrans ou des cheminées. Une inquiétante étrangeté se dégage de ces chalets, a priori lieu de refuge et de quiétude. Nostalgique offre une réflexion sur l'American Dream de la Suisse avec des œuvres d'Ixit les artistes de science-fiction rurale. Comet, qui est toujours investi dans de nombreux projets, s'associe à un événement singulier, la triennale Art Nomade. Partie d'Arnac-la-Poste en Haute-Vienne pour Vila do Conde au Portugal, sa destination finale, la triennale Art Nomade s'arrête une journée à Lyon le 27 septembre de 15h à 22h30, place Gabriel Péri. Comet accueille cette quatrième édition, articulée autour d'une exposition collective commissionnée par David Legrand, de performances, de projections et d'ateliers d'art plastique gratuits. L'insolite est l'espace dans lequel la triennale Art Nomade se déploie. Un camion doté d'une extension, soit un van élargi et mutant. Cette approche artistique promet d'être truculente. Pour l'exposition Swissflex, plus d'informations sur comet.fr. Pour la triennale Art Nomade, je rappelle la date, le 27 septembre, place Gabriel Péri. Écrivez à coordination@comet.fr pour les inscriptions aux ateliers.
Merci beaucoup. Nous entendrons également dans cette même émission et en dessous de la description écrite l'interview des deux artistes formant le duo Nostalgique que j'ai rencontré également, dont j'apprécie le travail. Merci beaucoup Gaëlle. Bonjour Thomas, tu nous fais entendre les mots d'Alain Rivière. C'est un extrait d'une révolte poétique aux éditions Conspiration. Les chiens nus, nous t'écoutons et on en parle juste après.
Des chiens descendent des montagnes dans la vallée. Ils s'arrêtent sur les pentes autour du lac. Ils s'assoient, ils s'allongent. Je vois des chiens à perte de vue. Ils me font signe de me taire. Les chiens me mettent un collier et m'attachent à une corde attachée à un anneau dans un mur. Ils font attention à ce que la corde tienne bien. Ils mettent un peu d'eau dans une gamelle près d'une niche, puis ils s'en vont. « Nous ne vivons pas comme des chiens, » me dit un chien. « Nous sommes ailleurs, pour toujours ailleurs. » Entente parfaite entre tous les maîtres. Ils se reconnaissent plus vite que les chiens. Ils s'aiment, ils s'adorent. Ils se parlent souvent pendant des heures. Voilà le vrai amour. Je reste allongé sous un arbre avec des chiens. Il fait chaud. Nous nous étirons sur le ventre. Je bâille. Je somnole. Je pose mon menton sur la terre battue. J'entends que les chiens sont inquiets pour moi. L'un d'eux me parle à mi-voix. « Ne te prends pas pour un chien. Tu n'y arriveras jamais. Tu as compris ? Obéis et tiens-toi tranquille. Ce sera déjà beaucoup. » Toi aussi, tu ne peux t'empêcher de faire le chien de garde, observe un chien minuscule avec des oreilles très pointues. Et tous à vouloir faire le chien de garde. Il n'y a plus que des chiens de garde. Ce monde est devenu un chien de garde. Comment cela va-t-il finir ? Un chien se balance sur une balançoire au bord du lac. Il me jette des petites fleurs bleues à la tête. Tu aurais voulu des éclats, des tortures, des guerres, des carnages, chantonne-t-il. Mais il n'y a que des promenades, des jours, et des jours de promenades, et encore des promenades.
C'est une inversion des rôles, si je comprends bien, finalement. Les chiens ont pris le pouvoir sur les hommes.
C'est ça, alors si on le présente vite, ça fait un peu Planète des singes, ou quelque chose qui rappelle le motif du carnaval.
Non mais là on est dans de la poésie.
Dans de la poésie, dans quelque chose qui pourrait presque
de l'humour,
sonner
de...
comme une sorte de science-fiction,
ouais,
mais
c'est
un langage... extrêmement posé, doux, qui fait rire, mais c'est qui n'est pas drôle, littéralement.
Non, enfin, c'est un peu grinçant.
Ça fait rire parce que ça, c'est quand même mordant. Hein,
absolument, c'est le cas de le dire pour un chien.
Oui, tout à fait. voilà, enfin, moi j'ai été saisi par ce texte. Je me le suis acheté au marché de la poésie en juin, en discutant avec l'éditeur.
C'est un tout petit opus. Très beau d'ailleurs. Hein, donc, c'est vraiment très très beau parce qu'il est tout doré.
Auteur assez aventurier, assez récent. Pour info, il a publié à côté, sans doute une des premières, si ce n'est la première édition de la carte de Cassini, qui est la première carte complète de la France, qui doit dater du XVIIIe siècle. Bon, voilà, il s'est embarqué là-dedans. Puis à côté, il a des collections de petits textes comme cela, mais qui me paraissent être des grands textes.
Et je regardais Alain Rivière, il a un parcours comme ça, un peu particulier aussi.
Photographe, peintre.
Et c'est intéressant, moi je ne le connaissais pas. C'était une chouette découverte pour cette rentrée. Merci beaucoup Thomas. Nous terminons avec nos Gédéons, nos coups de cœur du moment. Guillaume, avec quoi es-tu venu cette semaine ?
Alors ça va être un coup de cœur un peu particulier, parce qu'en fait c'est pour rendre hommage à quelqu'un qui est parti récemment, Éric Martin, qui était donc une grande figure de la nuit lyonnaise, en tout cas des concerts lyonnais, puisque avec sa femme Lynn, il faisait beaucoup de catering pour beaucoup de concerts. On se souvient, enfin moi en tout cas je me rappelle des Rougail Saucisses, donc à la Casa Musicale aussi, un endroit à Saint-Cyr-au-Mont-d'Or qu'il avait monté, qui accueillait des groupes pour des concerts, mais pour des résidences, pour des... Voilà, pour plein de choses. Voilà, c'était quelqu'un d'une humanité incroyable. Il a programmé bien sûr aussi pendant longtemps au Radio en Bellevue, et c'était vraiment quelqu'un d'incroyable quand on le croisait. Et d'ailleurs on l'a croisé ici même pour le vernissage de l'exposition qu'on a sous les yeux là de Richard Bellia. Et voilà, il avait plein de projets, et voilà, il est décédé subitement, et je pense à tous ses amis en tout cas qui le pleurent en ce moment. Voilà, je pense à Stéphane Pétrier, à François Morel, à Bruno Cali, voilà, à Joël aussi, à Xavier Deprat, à Stéphane Tabouret et à Laurent Cachard, qui dit que c'était un élément fédérateur de tout ce que Lyon recense dans le spectacle vivant, et c'est vrai, un programmateur, un facilitateur, un gérant, et donc un ami, je cite Laurent Cachard. On va peut-être écouter une chanson de Cali, parce que c'était un de ses meilleurs amis, et je vous propose une des chansons de son premier album, C'est quand le bonheur.
Téléphone à faune qui sonne et personne qui ne décroche. Je suis pendu à votre cou dans le plus beau de mes rêves, mais je ne me réveille jamais près de vous et j'en crève. Je suis pendu sous vos fenêtres, au pied de l'arbre, peut-être demain la petite fleur qui va naître vous racontera mon chagrin. C'est quand le bonheur. C'est quand le bonheur, 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 c'est quand le bonheur. Je suis pendu à cet espoir que vous m'avez soldé. Je suis presque sur l'autre soir, c'est moi que vous avez regardé. Je suis pendu par les pieds, tout rouge et le souffle coupé. À chaque fois que le hasard me dépose devant votre nez, je suis pendu à la cravate, dans mon costume croque-macabé. Il paraît que vous faiblissez devant les hommes bien habillés. Je suis tendu, c'est aujourd'hui que je viens vous offrir ma vie. Peut-être oserais-je parler à quelqu'un d'autre qu'à mes pieds. C'est quand le bonheur, 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 c'est quand le bonheur. C'est quand le bonheur. Et puis ce goût amer est venu tapisser ma bouche. Je viens de conquérir son cœur, mais c'est louche. Car qui mieux que ces vieux amants sait qu'on perd l'amour aussitôt qu'on le gagne, décidément. C'est pas facile tous les jours. C'est quand le bonheur, c'est quand le bonheur, c'est quand le bonheur, c'est quand le bonheur. C'est quand le bonheur, c'est quand le bonheur, c'est quand le bonheur, c'est quand le bonheur.
c'était la chanson de Cali, C'est quand le bonheur, pour rendre hommage à Eric Martin, récemment disparu.
Gaëlle, est-ce que tu es venue avec un Gédéon ?
Mon Gédéon de la semaine est Dahomey, le documentaire de la réalisatrice franco-sénégalaise Mati Diop. Le 10 novembre 2021, la France restituait 26 trésors nationaux pillés au Bénin, ex-Dahomey, lors de l'invasion des troupes coloniales françaises en 1892. Dahomey retrace l'épopée de ce retour dans un format court, 68 minutes, mais d'une intensité que la Berlinale 2024 a auréolée de l'Ours d'Or. La singularité de Dahomey réside dans le fait de faire parler la dernière des 26 sculptures restituées. Ainsi, la voix métallique et ténébrante du roi Gezo nous interpelle sur la colonisation de l'art, du regard et de la langue. Mais Dahomey est aussi un documentaire du réel. Il aborde avec une extrême minutie toutes les étapes logistiques de la restitution des œuvres. Autre moment troublant, celui du débat mené par des étudiants dans l'amphithéâtre de l'université d'Abomey-Calavi. Les prises de parole sont saisissantes d'interrogations. Je profite de ce coup de cœur pour vous lancer deux suggestions. Lire « À qui appartient la beauté » de Bénédicte Savoie, sorti en janvier dernier aux éditions La Découverte, et aller à la Conciergerie de Paris visiter l'exposition « Révélations, art contemporain du Bénin ». Je rappelle les références « Dahomey » de Mati Diop.
Merci beaucoup Gaëlle. Effectivement, c'est un documentaire incontournable. Pour moi, ce sera théâtre avec la rentrée des Célestins, la Chambre Rouge de et avec Michel Raskine, auteur et longtemps directeur du théâtre du Point du Jour. Nous retrouvons Michel avec grand plaisir sur un plateau. Depuis sa Chambre Rouge, coupée du monde, Michel Raskine remonte sur scène et regarde dans le rétro avec gourmandise. La vieillesse, l'amour, l'adolescence, mais aussi l'avenir sont au cœur de cette création. Un remède à l'isolement. C'est à la Célestine, petite salle, que nous donne rendez-vous Michel Raskine et c'est jusqu'au 29 septembre. Un spectacle intimiste à ne pas rater. En attendant de vous retrouver la semaine prochaine, restez curieux, à bientôt. J'ai comme Odéon est une émission proposée par Gaëlle Bossier-Lombard à retrouver sur liondemain.fr.